Chapitre 25. Cette lettre causa à Roger l'émotion la plus forte, la plus profonde qu'il eût jamais ressentie. Comme il fallait que Christine l'aimât pour s'être décidé à lui écrire ainsi. Il n'avait point été gâté sous le rapport de la tendresse, pas plus que sous celui de l'admiration. Christine, il est vrai, lui avait toujours témoigné une très vive affection pendant les années où ils avaient vécu ensemble comme deux camarades, car malgré la différence d'âge, c'était bien une camaraderie fraternelle qui s'était établie entre eux à cette époque. Isolés, abandonnés l'un et l'autre, privés de soins l'un comme l'autre, égaux tous deux devant l'indifférence ou les mauvaises paroles de leur grand-père, qui n'avait de cœur que pour Ludovic, son très cher petit-fils, elle était venue à lui comme il avait été à elle, naturellement, elle en se faisant plus grande, lui se faisant plus petit pour être de même taille, et c'était dans une union étroite qu'ils avaient passé ces dures années d'enfance, unis pour jouer sous l'ombrage des deux grands ormes du jardin de la rue de Lille, autour d'une statue de Pomone, sur laquelle ils avaient si souvent écrit leurs deux noms, unis pour se soutenir contre les méchancetés tyranniques de Ludovic, fort de l'appui de son grand-père, et très inventif d'ailleurs en mauvais tour, unis pour se consoler ou s'égayer selon que la journée était au chagrin ou à la joie. Elle, dans les heures mauvaises, toujours plus résignée, plus douce ou plus calme, lui portée à la révolte et à la bataille, mais, en fin de compte, se laissant toucher ou assagir par la bonté ou la raison qu'elle lui inspirait. Mais de cet attachement enfantin à la tendresse ardente qui jaillissait de chaque ligne, de chaque mot de cette lettre, la distance était grande et telle que, jusqu'à cette heure, il n'avait point imaginé qu'elle pût être franchie. Quand il avait quitté l'hôtel de Condrieu, Christine n'était qu'une petite fille de 14 à 15 ans, il est vrai, mais petite fille pour lui, précisément parce qu'ils avaient grandi ensemble. Petite fille, il avait quitté, petite fille, elle était restée, et leur court tête-à-tête, le jour de la reddition du compte de tutelle, de même que leur entrevue à l'église Sainte-Clotilde, n'avait guère modifié chez lui cette impression faite de souvenirs certains et solides. Mais voilà que tout à coup, la lecture de cette lettre avait allumé une lumière dans son esprit comme dans son cœur, et qu'il voyait que celle qui avait tenu ce langage, ce n'était plus une petite fille, c'était une femme. Ce n'était plus une camarade, c'était... Ah, si elle n'était pas une Condrieu! Mais telle était la fatalité de leur situation qu'entre eux se trouvait leur grand-père. Jamais jusqu'à ce jour, il n'avait pensé au mariage, ni pour se dire qu'il se marierait à telle époque, ni, comme tant de jeunes gens de son âge qui n'ont pas peur de se donner des démentis, pour se dire qu'il ne se marierait point. Mais en soi, le mariage n'avait rien qui lui déplût ou l'effrayât. Une enfance abandonnée comme l'avait été la sienne, une jeunesse privée des joies de l'intimité et des plaisirs du chez-soi comme celle que son isolement lui faisait, l'avait plutôt disposé à envier le bonheur de ceux qui peuvent goûter ses joies et ses plaisirs qu'à le dédaigner. Jamais non plus jusqu'à ce jour, il n'avait regardé Christine avec d'autres yeux que ceux d'un camarade ou d'un frère. Mais cette lettre venait de faire pour les yeux ce qu'elle avait fait quelques instants auparavant pour l'esprit. Ce n'était plus une petite fille qu'il voyait, c'était une jeune fille, belle d'une beauté douce et discrète, qui non seulement charmait le regard, mais qui encore parlait au cœur et l'emplissait d'émotion. Et cependant, si profonde que fût l'émotion qui venait de l'atteindre en apprenant à la connaître, il ne pouvait pas penser à en faire jamais sa femme. Il ne le pouvait pas pour lui, par cette raison décisive que ce serait se livrer à son grand-père. Il ne le pouvait pas davantage pour elle, et par une raison plus impérieuse encore. Depuis qu'il avait commencé à comprendre quels étaient les desseins de M. de Condrieu-Revel, il les avait soigneusement étudiés pour bien les connaître. Or, le but poursuivi si âprement n'était pas que la fortune des Norouze allât aux Condrieu, il était qu'elle allât au chef seul de la famille Condrieu, c'est-à-dire à Ludovic de Condrieu, et c'était pour cela que Christine devait entrer au couvent. Il fallait que ce fût Ludovic tout seul qui eût cette fortune, et non pas Ludovic et Christine, qui en héritassent pour chacun une moitié. qu'au lieu d'entrer au couvent, Christine devint sa femme, et par le fait seul de ce mariage, elle devenait ce qu'il était lui-même, une mine à héritage. Tous deux, mari et femme, étaient confondus dans une même haine, tous deux étaient en butte au même coup. Il l'entraînait avec lui. S'ils avaient des enfants, ils entraînaient ses enfants avec eux. Qu'il l'aima, cette chère petite Christine. Qu'elle l'aima ? Elle ne pouvait donc pas être sa femme, et cette réponse à la lettre qu'elle avait écrite, qui se présentait tout naturellement, qui s'imposait « Si tu veux que je sois sauvée, sauve-moi », il ne pouvait pas la faire. Ni celle-là, ni aucune autre de nature à entretenir en elle le sentiment de tendresse trop vive qu'elle venait de révéler à son insu et sans savoir dans sa pureté jusqu'où il avait entraîné. Qu'adviendrait-il si elle savait qu'elle pouvait aimer son cousin d'un autre amour que d'un amour fraternel? Qu'adviendrait-il si elle comprenait qu'elle pouvait être aimée par lui, aimée et épousée? C'était, enveloppée dans ce voile de pureté virginale intacte et immaculée, qu'elle devait entrer et s'enterrer au couvent. Et pour cela, il fallait qu'il y eût un obstacle entre eux, non pour elle, cet obstacle, mais pour lui, de façon à l'empêcher de revenir en arrière et de peser à nouveau pour la balancer la résolution qu'il venait de prendre. Raphaël serait cet obstacle.